France Culture.
Il n'y a pas les béliers. Il n'y a pas les béliers, il y a effectivement des moutons. Donc la distinction mouton-bélier, c'est... Il faut regarder de près. Il y a effectivement des moutons, il y a une quinzaine de moutons pour la laine. Et tout le reste du troupeau sont des brebis et des agneaux.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Des moutons et des hommes dans votre book club aujourd'hui ou comment les dessiner? Pour son premier album BD, Maxime Quin raconte une expérience qu'il connaît intimement, celle d'un berger d'estive qui accompagne quelques 800 brebis arpenter les hauteurs des montagnes ariégeoises, quelque part du côté du mont Roc. Il y compte la solitude d'un métier, ses terreurs et ses délices, la vigilance de chaque instant, le lien entre les hommes et les bêtes, la marche, et nous fait ressentir par la grâce de son trait la vérité sensible d'une pratique à la fois ancestrale et mal connue. L'autrice et illustratrice pour la jeunesse Sarah Chevaux a elle aussi été attirée par la montagne et propose aux tout petits de s'immerger dans l'observation d'un troupeau, l'hiver dans la bergerie côté face, l'été dans les alpages côté pile, dans un beau livre accordéon dessiné au charbon que l'on peut feuilleter mais dans lequel on peut aussi s'enrouler. Ils et elles sont nos invités. En fin d'émission, comme chaque jour, on ira chercher de la musique dans un livre. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Sarah Chevaux, Maxime Quin, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Des montagniers, c'est le titre de votre bande dessinée, Maxime Quin. Elle a paru chez Actes Sud et c'est votre tout premier album BD, je le disais. On est d'autant plus heureux de vous accueillir ici. Troupeau, l'hiver, l'été, c'est le titre de ce livre accordéon, Sarah Chevaux, que vous signez pour les éditions de La Partie. On dit aussi l'éporello, c'est-à-dire que c'est un livre qui se déplie grâce à une technique de reliage particulière. On aura l'occasion d'en reparler. C'est un livre qui peut être lu par des enfants tout petits, dès la naissance même, on peut dire. C'est un livre qui se manipule. Voilà, Sarah Chevaux, on suit votre travail d'autrice illustratrice pour la jeunesse depuis plusieurs années. On avait eu l'occasion de parler ici même dans une chronique d'un précédent album qui s'appelait Nuit de chance. Vous avez signé plusieurs autres ouvrages aux éditions Thierry Magnier, aux éditions Mémo, entre autres. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur, les livres qu'on peut lire, faire lire aux tout petits. Et justement, ici au Book Club, dans cette émission, on commence toujours par faire la connaissance de nos invités en les interrogeant sur leur rapport à la lecture et comment tout ça a commencé pour eux. Est-ce que vous pouvez nous dire, l'une et l'autre, comment ça commence pour vous? À quel moment la lecture, elle fait son entrée dans votre vie? Qui veut commencer? Sarah?
Allez. Eh bien... pour moi, la lecture, justement, elle a commencé avec une lecture à voix haute. C'est que j'ai une maman qui nous lisait beaucoup de livres avant de s'endormir. Mmh. Et j'ai la chance d'avoir deux petites sœurs et donc du coup d'avoir profité de longtemps de lecture comme ça, où je pouvais regarder les images et entendre le texte. Et puis ensuite, c'est aussi une enfance où on a été énormément à la bibliothèque et à la médiathèque de la ville. Et moi, j'ai été aussi très empreinte de ça, d'en fait la diversité des livres que j'allais chercher là-bas. C'est que j'allais à la fois lire parfois des livres d'histoire, mais j'allais aussi chercher des documentaires, des travaux manuels, je me souviens des premiers livres de philosophie pour ados que j'avais trouvé, que j'avais adoré, des bandes dessinées. Et j'aimais beaucoup, à chaque moment de ce que j'avais envie, ou alors en tout cas qui venait attiser ma curiosité, lire de plein de manières différentes.
Mmh, la lecture, c'est tout de suite synonyme d'une diversité, de possibilités, de champs multiples pour vous. Vous parliez des livres que vous lisez votre mère. Est-ce que vous avez souvenir de titres en particulier ou d'histoires comme ça que vous auriez encore dans l'oreille aujourd'hui?
Oh oui, il y en a vraiment beaucoup.
Alors, quelques titres, par exemple?
Il y a les albums du Père Castor, que moi j'aimais beaucoup, Cheval Bleu, Poule Rousse... Et puis, il y a aussi des choses beaucoup plus modernes, comme Petit Bleu et Petit Jaune, qui m'ont énormément marquée. Pour justement, je me souviens aussi de juste re-regarder ce livre et de me rendre compte que en fait cette tache de couleur me procurait une émotion en fait vraiment forte de réel personnage, et ça venait déjà me questionner sur ah oui en fait on n'est pas obligé de représenter comme un petit être, quelque chose, enfin comme un petit personnage d'autre manière en fait, si on fait vivre des actions ça fonctionne aussi, et de quelle manière ça vient nous rencontrer.
Petit bleu et petit jaune, pour ceux qui connaissent pas, c'est un très très grand classique de la littérature jeunesse, mais c'est donc un vrai récit où les personnages, je fais des guillemets en le disant, mais sont voilà des tout simplement des masses circulaires de couleurs. C'est le contraire d'un dessin qu'on pourrait qualifier de réaliste. Il y a une grande abstraction dans la représentation des personnages. Juste parenthèse pour préciser un peu les choses. Est-ce que par la suite, les années avançant, vous êtes resté comme ça dans une passion particulière pour les livres d'images, étant donné votre métier, votre pratique aujourd'hui, j'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a eu aussi ensuite voilà, une découverte, je ne sais pas, du roman, de territoire qui quitte l'image?
Oui, bien sûr. J'ai énormément aimé les romans et à une période particulièrement le théâtre. J'aimais beaucoup aussi lire uniquement les dialogues. Je me souviens que j'ai eu une période où j'ai beaucoup lu Shakespeare, puis Ionesco et plein d'autres d'ailleurs. Et encore aujourd'hui, bah, je lis beaucoup de romans. Je lis aussi beaucoup de littérature jeunesse. Enfin, ça a été aussi dans mes études des découvertes de plein d'auteurs que j'aime énormément, comme Rémi Charlip, Bruno Munari, Katsumiko Magata, William Steig, que j'adore, qui a notamment écrit Shrek. Et tout ça aussi, d'ailleurs, vient chercher dans plein d'univers, à la fois graphiques et narratifs, très différents. Et puis même, des encore très avant-gardistes aussi, comme Sadamasa Motonaga, et etc. Et puis aujourd'hui, je lis aussi, bien sûr, des romans, et toujours, souvent, en fait, entre un roman, je lis des textes de la pensée ou de la recherche sur certaines choses.
Ouais, vous citiez la philosophie dans les rayons qui vous attiraient dans la bibliothèque de l'enfance.
La philosophie telle quelle, j'en lis peut-être moins aujourd'hui, mais dans l'anthropologie ou des pensées comme ça, oui, on va dire anthropologie.
Et vous, Maxime Quint, ça commence comment votre histoire avec les livres? Est-ce qu'il y avait des livres quand vous étiez petit? Est-ce que c'était dans le paysage aussi? Est-ce qu'on vous lisait des livres ou pas du tout?
Oui, il y en avait un peu, il y en a toujours eu. D'ailleurs, je profite juste qu'on est en radio, j'ai oublié de vous dire que mon nom se prononce Kane.
Oh pardon, vous faites bien de le dire, c'est le bon moment pour le dire. Entendu.
Faire, c'est le moment. Mais il y avait des livres chez moi, mais pas énormément. Et j'ai aussi cette expérience d'aller beaucoup à la bibliothèque. Moi, j'ai grandi dans des villages, dans plusieurs petits villages, et j'allais souvent à vélo quand j'étais tout petit. À la bibliothèque, et voilà. Et donc, j'ai beaucoup lu comme ça. Et j'ai pas lu beaucoup, moi, de littérature jeunesse. J'avais des trucs assez nuls à la maison, genre les adaptations des Disney ou en livre, enfin, vraiment. Mais très tôt, de la bande dessinée, j'ai lu. Et je m'en rappelle assez bien du moment où on comprend pas tout en fait dans la lecture, et ça m'a pas mal marqué, alors que ce soit avec des sortes de romans pour enfants ou choses comme ça, où je lisais pour lire un peu, mais je me rappelle de cette impression de vraiment avoir rien compris, quoi.
Mais impression qui donne envie d'y revenir.
Mais ouais, pourtant je lisais, je sais pas pourquoi. Et la bande dessinée aussi, mais beaucoup moins, mais quand même, il y avait, par exemple, chez mes grands-parents, il y avait des BD qui traînaient de mes oncles, et il y avait des choses plus adultes, alors pas adultes dans le sens avec beaucoup de sexualité ou choses comme ça, mais par exemple, il y avait les BD de Gottlieb, les rubriques à braque, et voilà, j'ai des souvenirs assez forts de ça. C'est assez marrant, Gottlieb, parce que, enfin, en particulier rubrique à braque, parce que ça mêle à la fois des choses parfois très enfantines, il y a des sortes de chroniques sur un animal, un truc comme ça, avec un humour absurde, un peu comme ça, et puis parfois des choses qui relèvent un peu, je sais pas, des fois il se fait un peu journaliste musical, il va parler, enfin, des trucs qui me dépassaient complètement, et puis des fois avec des choses très violentes, beaucoup de sang d'un coup, dans un truc un peu burlesque et tout. Donc, je sais pas, j'ai un... Voilà, ça m'a fait des souvenirs forts, des fois, ce truc de pas tout comprendre, d'être en retard, en fait, par rapport... voilà.
C'est amusant, parce que vous êtes le deuxième invité à nous dire ça cette semaine. Ouais. On en parlait avec Arnaud Bertina lundi, qui racontait comment, dans sa jeunesse aussi, il avait lu tôt des livres qui étaient des livres assez compliqués, et à quel point le fait de pas comprendre avait été important et marquant pour lui aussi. Donc il y a vraiment quelque chose derrière ça. Maxime Cain, on va le voir, on va en parler en abordant votre bande dessinée tout à l'heure, mais vous avez cette particularité, et la BD raconte ça aussi, d'avoir pendant longtemps partagé votre temps entre cette pratique de berger d'estive, donc la montagne l'été dans les Pyrénées pour accompagner des troupeaux, et puis la pratique du dessin. Juste en un mot, et comme ça ce sera fait, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes venu à pratiquer ces deux activités-là, qui en apparence en tout cas sont assez différentes, et puis nous dire peut-être un mot aussi de la lecture en montagne dans cette bande dessinée qui est donc inspiré par votre expérience. On voit souvent le personnage lire. Mais d'abord, peut-être tout simplement, comment vous en êtes venu à faire ces deux métiers-là?
Je suis venu au métier de berger par un peu une sorte d'angoisse de comment je vais gagner ma vie. J'ai fait l'école des Beaux-Arts et en particulier, à la fin, j'étais à l'école de Paris, là, et c'est un milieu assez assez dur où il faut quand même un peu connaître des gens. Enfin, je me sentais un peu inquiet, quoi, on va dire, sur mon avenir économiquement, on va dire. Et quand j'ai appris à ce moment-là, vers la fin de mes études, qu'il y avait des écoles de bergers, des formations, et j'en avais aucune idée parce que moi, je viens des Pyrénées, mais pas du tout du milieu agricole. Je savais pas qu'on pouvait devenir berger. Et je me suis dit, j'ai eu l'intuition que ça me plairait. Et donc, je me suis lancé dans cette formation avec l'idée d'un job d'été, quoi, en fait. Je me suis dit, ça va être encore, comme j'en ai déjà eu d'autres, un nouveau job d'été, c'est saisonnier. Le reste du temps, je vais pouvoir faire du dessin, de la bande dessinée. Et bon, ça, c'était complètement idéaliste, parce que c'est pas juste un job d'été, c'est un métier qui envahit beaucoup, enfin, en tout cas, dans mon cas, qui a envahi beaucoup ma vie. Ne serait-ce que pour avoir des chiens, enfin, il faut avoir des chiens, les éduquer, on rencontre tout un monde, quoi. Et donc voilà, comment les deux se sont mêlés, voilà.
Et dans le livre, je disais, on voit le personnage, votre personnage, lire à plusieurs moments. Voilà, oui. Il est en plein milieu des montagnes, un livre à la main, parfois dans sa cabane, avec un livre. Est-ce que il y a quelque chose de particulier dans le fait de lire dans ce décor-là? Est-ce que la lecture qu'on fait en montagne, quand on pratique ce métier-là, elle a une saveur particulière? Est-ce que vous vous souvenez comme ça de moments de lecture, de livres lus dans ce paysage-là? Qui ont été particulièrement forts.
Oui, alors ça, à fond, ça me... En fait, chaque année, pendant ce que... Enfin, l'hiver, ce que j'appelle l'hiver, c'est-à-dire toute la vie en bas, hors saison d'estive, je fais ma petite pile de lecture que je me réserve pour la montagne. Et ça, c'est un grand plaisir, quoi, de regarder ma petite pile et me frotter les mains en me disant je vais pouvoir lire tout ça. Parfois, c'est le moment où je glisse un peu les pavés. Enfin, voilà, les gros livres, ils sont réservés à ça. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, oui, ça fait des souvenirs de lecture vraiment, vraiment forts. Et en fait, bon, moi, comme tout le monde, j'ai du mal à lire parfois le reste de l'année à cause des ordinateurs et tout ça. Enfin, je lis tout le temps, mais la montagne, c'est le moment privilégié. Ouais. Et j'ai des souvenirs très forts à lire. Un peu des classiques,
mais quoi, par exemple
des Dostoïevski, le journal de Kafka, chaque été quasiment je lis ou je relis un roman de Kazuo Ishiguro, qui est un auteur contemporain anglais là que j'aime beaucoup. Et ces livres, c'est vrai que quand je les revois dans ma bibliothèque, ça me ramène de suite à ces lectures en montagne qui sont pas forcément dans la montagne, dans les paysages extraordinaires, mais un peu dans mon petit lit superposé à la cabane. Mais bon, ça, ouais, c'est un moment vraiment privilégié la montagne pour ça, oui.
Sarah Chevaux, pour ce livre « Troupeau l'hiver, l'été », vous avez été passer du temps avec des éleveurs. Est-ce que vous avez à ce moment-là échangé sur la lecture avec eux ? Peut-être pas du tout, mais je tente cette question. Est-ce que vous avez parlé livres ? Et par ailleurs, est-ce qu'il y a eu des livres qui ont compté dans l'écriture de le dessin de celui-ci ? Est-ce qu'il y avait comme ça des petites références, des petites lumières qui ont été des inspirations pour vous, pour ce livre-là ?
Oui, les deux. Du coup, j'ai été en effet passer du temps et avec des éleveuses, éleveurs et bergères, bergers. Et d'autres où aussi je les ai juste, j'ai juste invité à faire de grandes discussions et à leur, surtout à leur poser plein de questions. Et quand notamment on a abordé la lecture, et des fois, enfin, moi j'avais en fait envie d'avoir de quoi me nourrir aussi à travers des lectures. Et bah parfois on m'a aussi, j'ai bien compris qu'il y avait des bergers et bergères qui avaient pas trop envie de lire des livres de moutons ou de bergers. Ils avaient justement envie de voyager autre part, ce que je comprends totalement. Et mais bon, on m'en a aussi conseillé et j'en ai lu des vraiment très très bien, dont certains que je cite justement dans mon livre. Un livre qui s'appelle Berger nomade de Pascal Wick, qui a été un des pionniers, je pense, enfin, en tout cas, à travailler avec les patous, en fait, en France, dans tout le début, où il y avait des loups, et à accompagner...
Les patous, c'est les chiens qui protègent les troupeaux, notamment du loup.
Exactement. Et bon, c'est vraiment un super livre où on se promène entre la France, l'Afrique du Nord, il part à cet endroit-là, et aussi dans les Rocheuses, en Amérique. Et ouais, ça m'a beaucoup beaucoup plu. Et puis il y a des livres contemporains qui sont vraiment très très bien aussi. Bergère de Florence de Boves, Bergère des collines de Florence Robert. Et j'ai beaucoup aimé aussi Pastorale avec Florence. Je me trompe, Florence de Boves, voilà. Et Violaine Béraud et Jean-Christophe Cavallin, hein, je ne sais pas exactement comment on le dit. Et donc oui, tout ça m'a nourri. Depuis, j'ai aussi lu un très très bon livre qui s'appelle « Composer avec les moutons » de Michel Meuret et Vinciane Després. Et voilà, oui, j'aime bien d'ailleurs pour tous mes livres me nourrir aussi de littérature entre guillemets adulte et aussi de différents registres, quoi, qui sont soit de la fiction, soit du documentaire, soit de la recherche. Et donc, ça m'a beaucoup plu, oui. Ce
côté. On va parler plus en détail de vos deux livres, de cet album de bande dessinée et de ce livre accordéon pour les enfants et pas que. Mais pour nous y emmener, on va écouter une chanson. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi j'ai pas fait berger. C'est ce que chante Bertrand Belin dans une chanson extraite de son tout dernier album qui vient de paraître. La peur, c'est l'une des dimensions que vous évoquez, Maxime Quin, dans cette bande dessinée. On écoute Bertrand Belin.
Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. J'aurais peur de le perdre. Au bas des falaises, adieu l'amour fou. Bonjour la terre glaise. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Des traces dans la neige, que sais-je, un torrent de boue, un trou. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. Berger, berger. Il pleut. Il pleut. C'est l'ondée. Il sera tout mouillé. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. peur de le perdre. Au bas des falaises, adieu l'amour fou, bonjour la terre glaise. Berger, berger, shepherd.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Votre dernière bande dessinée, Maxime Kane, est le récit de 4 mois de la vie d'un jeune berger d'estive qui accompagne un groupe de 800 brebis dans les Pyrénées ariégeoises. À un moment du parcours, par un jour de grand brouillard, quelque part dans les hauteurs, le berger croise un éleveur qui lui dit « Aux autres, tu ne peux pas raconter ce qu'il se passe ici, ils ne comprendraient pas. Le quotidien de la montagne, ils ne peuvent pas. C'est trop sensuel. » Et c'est comme si toute votre bande dessinée était une tentative de raconter, malgré tout, d'essayer de faire partager cet autre monde de la montagne, ses solitudes, le contact avec les bêtes, les menaces, les éleveurs, rudes et tendres à la fois. Le tout sans se payer de mots, par la finesse d'un dessin noir et blanc, dans un premier album qui rend sensible cette expérience du pastoralisme aujourd'hui. Sarah Chevaux, vous aussi, vous nous entraînez au contact d'un troupeau dans votre dernier album pour enfants, un Leporello à déguster dès le plus jeune âge et à deux face. Au recto, nous sommes dans la bergerie. Brebis, chèvres et patous sont à plat. Au verso, place aux grands espaces des montagnes et à la majesté du bouquetin et du chamois. Un livre réalisé après avoir accompagné la garde de plusieurs troupeaux un été pour être au plus près de ce quotidien-là. Deux livres en dialogue, donc, et l'envie de vous réunir tous les deux. Des montagnés, c'est le titre de votre album, Maxime Kane. Il a paru aux éditions Actes Sud. Troupeau, l'hiver, l'été. Le titre de ce livre accordéon, Sarah Chevaux. Il a paru aux éditions de La Partie. On vous retrouve tous les deux pour en parler. Sarah Chevaux, vous avez souvent travaillé au contact, je ne sais pas, mais en tout cas à partir d'animaux. Vous nous faites découvrir bien des animaux dans vos albums pour enfants. Il y a eu l'année dernière ce beau livre qui s'appelle Le Martinet sur cet oiseau aux éditions Mémo. Avant ça, Cette comptine d'oiselles et d'oiseaux aux éditions Thierry Magnier qui nous faisait découvrir tout un tas d'oiseaux qu'on connaît plus ou moins, le poussin, le coucou, mais aussi le pic et pêche, que je ne connaissais pas, par exemple, pour ce qui me concerne. Qu'est-ce qui, pour ce projet-là, vous conduit à vous intéresser aux moutons?
En fait, c'est après avoir fait Nuit de chance, donc mon premier album où j'ai réalisé mes propres charbons à dessin. Je les appelle comme ça, mais en fait, c'est du fusain. Mm. Et il s'avère que dans cet album, j'ai fait des recherches et des expérimentations, et quand j'en ai cuit plusieurs, j'ai découvert qu'en fait il y avait des différentes couleurs qu'on pouvait avoir. Et en fait, à force de dessiner avec ces outils-là, je remarquais cette gamme colorée et aussi en fait les matières en fait que cet outil particulier, donc ce charbon à dessin, ont. C'est-à-dire que c'est à la fois gras et sec, c'est très particulier. Puis moi, je m'amuse beaucoup avec juste l'expérience sensible, donc de le laisser s'étaler sur la feuille et de voir un petit peu ce que ça donne. Et en fait, très souvent, ça m'a fait penser à de la laine de mouton. Et puis la gamme colorée était juste parfaite. En fait, on a du noir, du brun, du beige, du gris.
Je précise juste que donc on dit souvent fusain. Moi, j'ai appris grâce à vous et à cet album Nuit de chance que fusain, en fait, c'est le nom d'une espèce d'arbre particulière. Et vous dites charbon à dessiner parce que ça rend sensible et concret ce que c'est que cette technique du fusain qui est donc fait à partir d'un bois cuit.
Oui, d'un bois, tout simplement du charbon, quoi, carbonisé. Mmh. En fait, souvent, j'explique en disant que pour moi, c'est un peu un faux ami, le mot fusain en français. En anglais, on dit charcoal. Mmh. Donc, en fait, c'est juste du charbon. Et le mot fusain en français nous a fait un petit peu oublier que du fusain, bah, c'est un arbuste très commun qui pousse partout en Europe. Vraiment, absolument partout, dans tous les milieux. Et c'est vraiment très facile à trouver. Mmh. Et que, du coup, notre outil de fusain, c'est tout simplement du charbon. Hein, qu'avec n'importe quel charbon, on peut dessiner. Et c'est ce que j'ai voulu déjà transmettre avec ce premier livre, avec l'herbier, enfin, avec le nuancier de couleurs de toutes les essences de bois. Et en cuisant différents et de différentes manières, on peut avoir comme ça toutes ces nuances.
Et vous disiez que ça vous avait fait penser à la laine.
Oui, après, ça m'a fait penser à la laine du mouton. Et puis, J'avais envie, enfin ça m'a aussi fait penser à des écorces, enfin il y avait plein de choses que j'ai fait en fait apparaître par le dessin, par les recherches dans mes livres, quoi. Tout ce que j'ai découvert avec, entre guillemets, ce nouvel outil. Et en fait, je pense qu'en écrivant déjà Nuit de chance, j'avais envie de faire un livre pour les tout petits, pour les bébés un petit peu, qui sortent un petit peu de cette imagerie qu'on a souvent, qui est très plus propre, ordinateur, qui est moins dans la sensibilité, on va dire.
Et dans la matière.
Beaucoup moins dans... Exactement, c'est ça. Beaucoup moins dans la matière. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait rencontrer ça. Et j'avais déjà cette idée, en fait, de livre accordéon, d'images en noir et blanc, ou alors c'est... Enfin, et ce nuancier, de couleurs, donc juste marron, brun, beige. Et donc, cette idée, après, de moutons, ce troupeau. Et puis ensuite, je travaille en faisant énormément de maquettes, énormément d'essais, et surtout énormément d'erreurs. Et en fait, c'est là où, du coup, j'ai découvert qu'en fait, en le manipulant, il y avait ce jeu d'accordéon, mais qu'en fait, quand je commençais à le replier, ben, en fait, je pouvais recoller deux parties ensemble, ça faisait une sorte de puzzle. Et puis que... Voilà, qu'il y avait tous des jeux comme ça qui, très simplement, en fait, dans la manipulation, venaient se rencontrer. Parce que du coup, c'est un livre qu'on peut manipuler et du coup, on peut associer différentes images pour...
Absolument. Alors, c'est assez difficile à décrire, mais on va essayer quand même. Donc, ce système de l'accordéon fait que d'abord, on peut le déplier entièrement face à soi, une face puis l'autre, et je l'ai dit, il y a une face qui renvoie plutôt à la vie du troupeau en bas, l'hiver, et puis l'autre face qui, en tout cas, nous entraîne dans les montagnes. Mais on peut aussi, par un jeu de pliage, associer différentes faces du livre et faire se rencontrer comme ça un bout de la montagne et un patou, ou bien deux parties différentes d'animaux, parce que vous jouez aussi sur des différentes échelles de plans, c'est-à-dire qu'il y a des planches, il y a des faces du livre qui représentent la montagne vue de très loin, et puis il y a des planches qui représentent les animaux vus de beaucoup plus près. Mais quand même, pourquoi ce décor-là ? Comment vous en venez à vous dire, là, il y a quelque chose qui va être intéressant pour faire un livre pour les tout-petits ? Oui, et j'en profite pour préciser que c'est un livre aussi. On peut mettre un bébé qui sait s'asseoir, par exemple, assis sur le sol et entourer l'enfant du livre, ce qui est aussi génial parce qu'il peut s'en saisir. Il suffit de le faire avec un jeune enfant pour voir à quel point c'est quelque chose qui est réjouissant. Mais pourquoi ce milieu-là, au point de vous dire j'ai envie d'aller aussi au contact d'éleveurs, d'éleveuses, de bergers, de bergères ?
Ben, pour moi, c'est toujours l'aventure d'un livre, c'est toujours une excuse aussi pour aller faire réellement des recherches, parce que en fait, quand on fait réellement des recherches, c'est là où on a réellement des surprises, où on apprend des choses. Et c'est ça que j'aime, je pense. Et c'est comme ça aussi que j'arrive petit à petit à faire des choses qui, moi aussi, me surprennent et ne sont pas juste ce que j'attendais d'eux. Ça, je crois que ça m'intéresse peut-être un petit peu moins. Et donc voilà, quand j'avais cette idée de mouton et de troupeau, après j'ai commencé déjà un petit peu à travailler comme ça. Et je sais que j'ai grandi... dans une famille où il y a énormément d'agriculteurs et d'éleveurs. Dans ma famille, de mes oncles et tantes, grands-parents, mais aussi des amis de la famille, énormément. Et donc, c'était aussi très, très facile pour moi d'aller en rencontrer. Et donc, c'était la bonne excuse pour aller passer du temps en montagne et puis parler de moutons avec d'autres gens, d'aller voir plein de troupeaux différents.
Est-ce que ça a compté le fait que le mouton, c'est aussi un personnage courant dans l'univers des livres pour les enfants ? Ça fait partie du bestiaire, classique des albums pour la jeunesse. Et puis on peut évidemment aussi penser à cette phrase si célèbre du Petit Prince de Saint-Exupéry, « Dessine-moi un mouton ». Est-ce qu'il y a un moment où c'était présent dans votre esprit, cette idée-là ?
Oui, bien sûr. Il y a toujours en fait ce personnage, justement... quand je me dis ah ok, je vais faire un livre où il y aura des moutons, je réfléchis à quel est le mouton aujourd'hui ou avant, justement, dans la littérature jeunesse, et qu'est-ce que moi je vais en proposer comme lecture. J'ai toujours assez à cœur de faire un livre qui n'existait pas avant, un livre que déjà moi j'ai envie d'avoir parce que pour partager, je veux dire, avec d'autres gens, c'est pas forcément un truc, enfin si, c'est personnel aussi, mais en tout cas moi je sais que je travaille vraiment de manière adressée. Et donc, c'est, par exemple, un livre, en effet, que j'ai lu énormément à des petits, que j'ai montré d'ailleurs au fil de sa création à des enfants de 2 ans, 2 ans et demi, qui, en effet, adorent s'entourer autour et être le berger et voir tous les moutons autour d'eux. Et oui, donc ça me tenait très à cœur en fait d'aussi proposer une autre image de ce troupeau. Et par exemple, j'ai choisi de représenter un troupeau qu'on dit bigarré, c'est-à-dire qu'il est coloré. Il est fait d'individus différents et il n'est pas uniforme comme on a l'habitude d'avoir comme imagerie dans les moutons. Bah, justement, par exemple, quand il y a aussi des expressions, de suivre les choses comme des moutons et en fait, oui, là, ça me tenait vraiment à cœur, ouais, qu'on ait un ensemble qui soit fait de diversité. Aussi, il y a les diversités d'individus, parce que maintenant, il y a les patous, les chiens, qui, pour moi, qui font partie du troupeau. Et puis là, je représente des brebis et aussi des chèvres, parce que c'est un mélange de chèvres et brebis.
Ouais. Voilà. Et on apprend beaucoup de choses, hein, notamment sur la question de la différence entre le patou et les chiens de conduite. J'ai appris ça à lire vos deux livres, Maxime Kane. La question aussi d'identifier chaque mouton ou brebis différente du troupeau, elle est au cœur de votre livre aussi. Comment est-ce que vous, de l'expérience que vous avez fait pendant de nombreuses années de ce métier-là, vous en êtes venu à vous dire que ça allait faire le sujet de votre premier livre de bande dessinée, de votre premier album?
C'est un peu comme la phrase que vous avez citée un peu avant de cet éleveur qui parle de... qui dit les autres peuvent pas savoir, c'est trop sensuel, ou quelque chose comme ça. C'est que, bon, c'est vraiment un éleveur qui m'avait dit ça. Et en fait, il y a quand même... Ouais, je pars en fait du fait que bon, on vit des choses en montagne parfois, assez fortes souvent, dans le mauvais sens ou dans le bon sens du terme. Enfin, il y a des choses assez fortes qui se passent là-haut et on est toujours tout seul ou avec son chien. Des fois, je suis frustré de pas partager ça avec quelqu'un. Et donc, avec le livre, c'était une façon d'essayer de faire ça, mais je trouve ça très difficile à faire. J'ai pas complètement réussi à, c'est impossible, mais voilà, à raconter ce que c'est cette vie, ce métier en montagne. Le livre, il était parti d'un point de vue un peu plus documentaire à la base, et à un moment donné, je me suis rendu compte que déjà, c'est pas ce que j'avais envie de faire, et puis en plus, c'est pas ça que j'avais envie de raconter, les choses les plus factuelles, même si c'est le cas quand même, parce que j'ai envie quand même de placer un contexte que les gens comprennent un peu comment ça se passe. Mais j'avais quand même envie de dire un peu la vérité sensible du métier. Voilà.
Je vous propose qu'on plonge dans la matière même de votre livre, on va en écouter un extrait.
Juillet, 4h45. Réveil, ablution à la source, café, radio. Le sac à dos déborde de l'essentiel de mes affaires, comprimé sous les provisions de frais qu'ont monté les éleveurs hier. La cabane des Morées restera fermée pendant un mois et demi. Les pâturages usés de Sobé vont respirer et préparer un regain gourmand pour notre retour à la fin du mois d'août. Juste avant le lever du jour, je retrouve les burbies, là où je les ai laissés hier, et on a pris la passade de Funtarec. Dans l'aube fraîche, les pieds des bêtes tassent encore les vieux chemins et soulèvent l'odeur forte du fumier et de la terre trempée. Passé devant, j'appelle les meneuses et les assoiffées de sel pour tirer le fil du troupeau sur la caminole qui file entre les myrtilles. Tout au fond, Finet ratisse les dernières. C'est la carte postale idéale. Le berger orgueilleux mène 800 brebis dociles qui marchent dans son ombre. Plus tard, l'enthousiasme a fondu. Sous le soleil, la laine chauffe, le bétail ramollit et se disperse.
Allez, Finet !
On ne se comprend plus, je m'énerve, je monte, je descends, je crie, je ne mène plus, je pousse.
Pousse !
Enfin, on attend le bas des quartiers hauts. Lassitude générale en fin de journée. J'ai tout lâché derrière la crête du mail. Le chien et moi errons à la recherche du petit plat où doit se trouver l'abri. Quand le soleil est passé derrière les montagnes, on a rejoint notre niche au pied du mont Roc. au milieu des cartons, Finet halète comme une petite pompe rapide. août. Ce matin, je passe le temps en faisant des grimaces dans le petit miroir. J'ai oublié mon rasoir dans l'autre cabane et ma petite radio aussi. J'économise mes lectures, mais j'ai du mal à tenir en place, abruti par la semaine de brume qui vient de passer. Hier, ça s'est levé, mais depuis, les orages s'enchaînent. Avant, je n'en avais pas peur, mais avec les années, ça m'inquiète de plus en plus. J'ai été pris quelques fois au milieu des éclairs, et la dernière était la pire. J'ai honte de l'admettre devant les éleveurs, mais parfois, quand l'orage approche, je suis incapable de quitter la cabane.
Un extrait de votre bande dessinée, Maxime Kane. On est là au milieu du récit, à peu près, donc fin juillet, début août, et on entend la façon dont vous nous faites partager cette réalité sensible qui est celle du berger, qui est votre personnage principal, et ces émotions qui sont aussi la peur parfois, notamment dans ce moment où voilà, il est dans sa cabane, l'orage gronde et il nous avoue, il partage avec nous voilà, le fait qu'il est terrorisé en fait par les orages. Il y a comme ça dans la bande dessinée quelque chose qui relève d'une forme de façon de casser l'image qu'on peut avoir du berger viril. C'est ce qui est dit dans ce texte-là, hein, le berger orgueilleux qui guide ses brebis fières sur sa montagne. Est-ce que il y avait aussi cette envie-là? Est-ce que c'était quelque chose qui vous animait dans l'écriture du livre, cette idée de déjouer peut-être des idées reçues sur ce métier-là?
Oui, complètement. Ouais. Et merci d'ailleurs pour cette lecture qui était très belle.
Et, Garance Roubieux.
Oui, c'est chouette d'entendre avec une autre voix. C'est complètement l'idée, surtout dans ces idées cette histoire d'avoir peur, de choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est parfois vu comme quelque chose de un métier héroïque en fait, avec derrière lequel on met beaucoup de valeurs viriles, enfin peut-être moins au niveau du grand public où il y a un peu ce truc du berger qui fait la sieste au soleil, mais en tout cas dans notre métier, chez les pastoraux, il y a vachement ça de c'est les valeurs viriles, la résilience, être voilà capable d'endurer une vie très dure quoi, la montagne, et ça je pense qu'on est plein de bergères, de bergers à arriver dans ce métier en étant aussi un peu coupable de faire perdurer ces clichés, et moi j'aimais bien l'idée de déconstruire un peu ça, parce que on en revient vite, et surtout si on veut durer un peu dans ce métier, c'est, et puis voilà, puis la montagne parfois ça fait très peur, l'orage en particulier.
Et l'album, il explore beaucoup toute une série d'ambivalences, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, sur la solitude, c'est un livre qui raconte aussi beaucoup la solitude de cette expérience-là. Et le personnage, il a une relation ambivalente qui passe extrêmement bien dans le livre. C'est-à-dire qu'à la fois, on sent bien qu'il la cherche, qu'il court après elle, qu'il l'aime, cette solitude. On le voit souvent au début, ça commence, il est encore avec les éleveurs, les éleveuses. Et on sent qu'il a envie de partir vite, quoi. Il y a une éleveuse, je crois, qui lui dit « Attends, t'inquiète pas, tu vas être seule pendant plusieurs mois, pars pas trop vite. » Il court après. Et en même temps, il y a des moments où c'est rude, quoi. On sent que ça lui pèse, il est seul. Il y a aussi une scène très belle où on le voit regarder aux jumelles la ville au loin, il aperçoit une silhouette qui va sortir ses poubelles, tout d'un coup on l'entend se réjouir d'avoir comme ça un contact même extrêmement lointain avec un autre humain qui voit, et puis la minute d'après il y a quelqu'un qui arrive, et alors là il est vraiment saoulé, quoi. Il n'a pas du tout envie d'avoir le contact avec cette personne-là. Et puis, il y a toutes les ambivalences aussi du rapport aux bêtes, c'est-à-dire qu'on sent une extraordinaire tendresse, une extraordinaire attention tension qui est le cœur même du métier de berger, vis-à-vis bien sûr des brebis et des moutons, mais aussi dans la relation avec le chien, les chiens qui sont si importants. Le chien, c'est son compagnon essentiel. Et puis, il y a aussi la dimension de menace que représente l'ours ou les chiens sauvages qui attaquent les troupeaux. Il y a une scène aussi très forte où on voit une éleveuse abattre deux chiens dont elle pense que qu'ils ont tué des bêtes, ces bêtes à elle. Est-ce que vous avez travaillé aussi, mais dans la sensation même, au moment où vous dessiniez le livre, sur ces ambivalences-là, ce côté à double face?
Oui, j'ai en fait, je voulais que, comment dire, ouais, je voulais qu'on puisse un peu se... Non, c'est pas se faire son idée, mais en fait, je voulais laisser ça un peu à libre d'interprétation et pas forcément prendre position sur ces choses-là, plutôt le raconter voilà, comme un témoignage directement.
Vous disiez tout à l'heure, j'ai commencé le livre en me disant que ça pouvait être un récit d'ordre documentaire. Enfin, il y a une dimension aussi documentaire dans le livre. Mais finalement, vous avez été conduit vers une forme de fiction. C'est-à-dire que c'est inspiré, bien sûr, de votre expérience. Et en le lisant, on sent que c'est nourri d'une expérience. Mais vous avez aussi été vers quelque chose qui relève de la fiction. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans la construction de la narration, vous êtes détaché aussi de votre expérience. Vous avez inventé des personnages, par exemple. Ça s'est passé comment?
Oui, en fait, pour que ce soit plus riche, pour que ça parle mieux, à mon avis, pour que ça dise mieux la vérité, en fait, de cette expérience, j'ai recomposé les choses pour raconter une histoire, en fait. Et j'ai fait des personnages à partir de plusieurs personnages. Mais en fait, toutes les anecdotes sont vraies, mais elles se sont pas passées sur une saison comme c'est le cas dans le livre, mais sur plusieurs. Enfin voilà, il y a une sorte de remontage de tout ça, ouais.
Le Book Club, c'est aussi une communauté de lecteurs, de lectrices qui nous écoutent et qui vous lisent. Je vous propose qu'on écoute la lecture que Xavier a faite de votre bande dessinée. Maxime Kane, il vous adresse une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Maxime, c'est Xavier Dalibri à la ligne. Eh bien, j'ai lu Des Montagnés, que j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis plutôt quelqu'un du paysage maritime. Et je me suis totalement laissé embarquer dans ce récit de montagne que j'ai trouvé très sensible, à la fois pour son aspect humain, avec tout ce que ça comporte de paradoxal parfois, et aussi pour son rapport à la nature, aux éléments. Et je trouvais que c'était un récit non seulement sensible, mais aussi très sensoriel, et ça m'a beaucoup plu. Et à ce propos, j'avais une question, puisque c'est un récit quand même de nature, on aurait pu s'attendre à des couleurs chatoyantes pour illustrer toutes les petites subtilités de la nature. Et Maxime, vous avez choisi l'utilisation du noir et blanc avec beaucoup de contraste, beaucoup d'aplats de noir, on dirait presque des gravures parfois. C'est très très beau. Et je me posais la question, est-ce que c'est un choix tout à fait conscient ou est-ce que c'est juste la spontanéité du mouvement? Merci beaucoup pour votre réponse.
Merci beaucoup Xavier et salut à la librairie à la ligne qui est située à Lorient. Maxime Kane, sur le choix du noir et blanc.
C'est en fait cette montagne que je raconte dans ce livre, c'est la première montagne où j'ai travaillé comme berger. Et c'est dans le Couserans, une partie de l'Ariège, à l'ouest de l'Ariège, qui est très austère, très humide, avec énormément de jours de brume dans l'été. Des montagnes très dures, des vallées un peu fermées. Et en fait, cette austérité, je trouve qu'elle correspond bien à... Enfin, elle est, je trouve que c'est pas mal de la représenter en noir et blanc. Après, il y a un côté aussi confortable où moi, c'est mon outil, l'encre de Chine, la plume. C'est mon outil dans le sens où c'est celui avec lequel j'ai l'habitude de dessiner. Mais très vite, c'est apparu comme... ça convenait bien, moi, je trouvais. Ouais.
Sarah Chevaux, c'est l'une des choses qui vous réunit tous les deux. Vous, votre album, il n'est pas en noir et blanc, mais il est dans une gamme de couleurs, on l'a dit hein, tout à l'heure, noir, blanc, brun, et puis c'est tout. Pas de couleurs chatoyantes, pas de bleu, pas de rouge. Qu'est-ce que ça apporte pour vous à la représentation de ces troupeaux, de ces montagnes, de ces bêtes?
Bien, à la base aussi, c'était du coup dans cette volonté de parler aux tout petits, aux tout 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 petits, on sait qu'ils voient mieux les contrastes. Donc il y avait cette volonté de rester dans cette gamme-là aussi pour ça. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça nous donne des contraintes en dessin qui, du coup, nous font avoir des idées et nous font trouver des solutions qui sont autres. Donc, par exemple, dans ce livre-ci ou dans Nuit de chance, j'ai dessiné aussi en négatif ce qu'on appelle. Donc, par exemple, quand je dessine la brebis, bah, au lieu de colorier à l'intérieur de la brebis, je vais colorier autour, ce qui fait que la brebis est blanche à l'intérieur de la page. Et voilà, ça, c'est toutes des trouvailles en fait graphiques qu'on fait pour représenter avec des outils moins, avec moins de possibilités, mais finalement qui en ont beaucoup si on cherche un petit peu.
Pour poursuivre sur la question de la technique, de la manière dont vous avez travaillé graphiquement, je vous propose qu'on écoute le dessinateur Emmanuel Guibert. Il était interrogé dans une émission de Kathleen Evin sur France Inter en 2015.
Le dessin, c'est très exactement un journal. Quand on dessine, ça consiste à capter des choses qui nous intéressent, qui nous questionnent, qui nous plaisent ou qui nous révulsent d'ailleurs parfois. Et instantanément, on a envie d'en garder le souvenir pour en garder la sensation. Et pour peu qu'on soit dessinateur, c'est par les moyens du dessin qu'on le fait. Au final, quand on réouvre ces carnets de croquis, vous saute au visage les instants vécus, avec, je dois dire, une présence vraiment exceptionnelle. C'est les seuls dessins de moi que j'aime regarder. Comme disent régulièrement les auteurs, d'ailleurs, quand on relit ce qu'on a fait, on a tendance à n'en voir que les défauts, c'est assez vrai. Par contre, je porte pas tellement de jugement de valeur sur mes dessins de croquis. Sauf quand je sens que je les ai fabriqués, si j'ose dire. C'est-à-dire quand je sens que j'ai voulu faire un peu le malin, pour m'épater et puis épater éventuellement la galerie ensuite, ça c'est pas bon. Mais quand j'ai assez honnêtement essayé vraiment de capter ce qu'il y avait devant moi, eh bien en règle générale, ces dessins, ils vieillissent plutôt pas mal. Et puis ils ne m'inspirent pas encore une fois de jugement de valeur, ils m'inspirent tout d'un coup un bien-être ou une curiosité qui était celle que j'ai ressentie quand j'étais face à mon motif.
Emmanuel Guibert, en 2015, à propos de sa tendresse pour ses propres croquis et pour le croquis en général, Maxime Kane, j'étais très surprise en lisant ce que vous avez pu dire sur la manière dont vous avez travaillé pour cette bande dessinée, par le fait que vous n'avez pas travaillé sur le motif quand vous êtes en montagne, quand vous exercez le métier de berger. Je crois que c'est trop épuisant pour avoir la place pour dessiner en plus. Et pourtant, quand on lit cette bande dessinée, on a parfois l'impression qu'elle a été dessinée à l'endroit même de ce qui nous est raconté. Du coup, comment vous avez travaillé? Est-ce que malgré tout, vous êtes mis dans des conditions qui seraient proches de celles d'un dessinateur qui est face à son objet?
Oui, j'ai pas du tout cette pratique, moi, du dessin compulsif de carnet, comme ça, et en montagne, ouais, en effet, j'accorde très peu de temps au dessin. Et c'est en bas, en fait, en me retrouvant en bas, que je me dis ça, ce souvenir, comment je veux le représenter. Je prends le dessin comme un peu comme ce que disait Emmanuel Guibert, mais à une échelle beaucoup plus longue. Voilà, j'ai pas cette pratique de carnet de dessin d'après nature. Mais oui, non, j'ai vraiment divisé ma vie en deux saisons, quoi, par rapport à ça. Et le dessin, c'est en bas, parce que, en effet, en montagne, souvent, j'ai pas l'énergie, on va dire mentale aussi, pour dessiner. Mais
pour cet album-là, par exemple, vous vous mettez des photos devant les yeux, parce qu'il y a par exemple une très grande précision topographique, une sensation des lieux qu'on a qui relève pas simplement de la précision des dessins, mais aussi bien sûr de la dynamique des volumes, des choix d'échelle, etc. Mais malgré tout, est-ce que quand même vous vous mettiez des images sous les yeux, ou c'est de la pure convocation mentale?
En fait, je laisse la place vraiment aux deux, parce que alors des fois j'utilise des photos et j'essaye d'être très précis à des moments donnés dans la bande dessinée. J'ai dû aussi apprendre à dessiner les brebis en fait parce que c'était vraiment pas si facile en fait. À force de côtoyer des brebis, j'aurais pu. Enfin, j'ai un peu pensé, oui, je sais dessiner. non, c'est pas facile. Donc j'ai eu besoin de temps pour réussir à dessiner les brebis et avec beaucoup de photos justement.
Il y a une planche notamment où votre personnage, ou le personnage, je dis vous parce que on pense à vous, mais en tout cas le personnage principal de la bande dessinée explique à des touristes, des marcheuses qui croisent comment ça se passe de veiller sur les brebis et d'être capable de dire si on en a perdu, puisque je l'ai dit, hein, il y a quelque chose comme 800 bêtes que ce personnage accompagne, donc les dames qu'il croise lui demandent mais comment vous faites du coup, et il explique que il en repère quelques-unes qu'il arrive à identifier. Et puis régulièrement, il les observe, il vérifie si celles qu'il repère sont là. Et il y a toute une planche, voire plusieurs planches, qui sont simplement le dessin de chacune d'elles, avec leur nom, très précisément. Et nous, lecteurs, lectrices, par le nom, mais aussi par la précision du dessin, on est amené nous-mêmes à être attentifs à la différence de chacune de ces bêtes. J'imagine que c'était l'un des enjeux aussi pour vous, de être capable de nous mettre dans cette vision, cette attention si précise à l'animal.
Oui, voilà. Ça, c'est un moment, par exemple, où le dessin est un petit peu plus académique, on va dire, plus précis, et parce que on va individualiser les animaux. Et il y a d'autres moments. Ce qui est important, c'était leur déplacement, la ligne qu'elles dessinent sur la montagne. Donc là, c'est des dessins très minimaux qui ressemblent plus à des des peintures rupestres, dans le sens où c'est des lignes assez lâchées, minimales, quoi. Et voilà. Et pareil pour la montagne. Donc, j'ai essayé un peu de m'adapter à ce que j'avais envie de dire à des moments précis du récit.
Ouais, il y a vraiment deux styles graphiques. Enfin, on pourrait même en décrire plus, mais en gros, il y a d'un côté une très grande précision, et puis il y a aussi une forme d'abstraction. Il faut quand même mentionner que votre personnage, par exemple, son visage, c'est quelques traits, il n'a pas d'yeux, et ça participe aussi vraiment beaucoup de la force d'émotion qu'on a en vous lisant, Sarah Chevaux. Est-ce que c'était un enjeu pour vous aussi? Qu'est-ce que c'est de dessiner, non pas seulement les moutons, mais aussi le chamois, le patou? Est-ce que c'est particulièrement difficile?
Oui, je rejoins Maxime, je trouve ça très difficile de dessiner des brebis. J'en ai dessiné au moins 1 million de très ratés.
Pourquoi c'est si difficile?
Moi, je crois aussi parce qu'il n'y a pas de choses reconnaissables un petit peu. Enfin,
il n'y a pas les grandes oreilles, les grandes dents.
Il n'y a pas le grand cou, il n'y a pas. En plus, il y a quand même beaucoup de morphologies différentes chez les brebis. Enfin, en fonction des races et aussi en fonction des individus au sein d'une même race. Et je crois que j'avais très à cœur d'une certaine justesse de ça, quoi, en tout cas de proportion et de, justement, de rendu un peu sensible comme ça, que j'avais envie d'avoir. Et du coup, j'en ai plutôt dessiné énormément pour arriver à celle que j'ai eu envie de mettre dans le livre. J'en ai aussi dessiné quand j'étais en montagne. Pareil, je rejoins pas Emmanuel Kipper. Moi, je suis pas du tout en amour avec mes petits croquis de montagne. Mais certains, oui, mais c'est plutôt rare que l'inverse. Mais je prends aussi beaucoup de photos. Je redessine comme ça beaucoup à partir de photos, ouais.
Et dans vos deux livres, grâce à vos deux livres, on apprend énormément de choses à la fois sur le métier de berger dans votre livre Maxime Kane, mais aussi de façon plus générale sur reconnaître ces animaux. Je l'ai pas dit, mais il y a aussi un texte qui accompagne votre livre, Sarah Chevaux, et qui nous permet d'être attentif à quelle est la différence, par exemple, entre un bouquetin et un chamois. Moi, j'ai aussi, hein, je l'avoue, en préparant cette émission, été vérifier c'était quoi la différence entre un mouton et une brebis. Voilà, et toutes ces choses-là, on en sort enrichi. On les apprend à la lecture de vos deux livres. Mais le book club continue. «
Et à 7h06 chaque jour dans l'émission, on vous signale des événements en lien avec la lecture, avec les livres. Aujourd'hui, deux événements qui ont aussi à voir avec le dessin. Premièrement, les rencontres internationales de la bande dessinée organisées chaque année par la Cité internationale de la BD à Angoulême. Elles auront lieu le 6 novembre prochain, cette année, sur le thème « Censure et liberté de création en bande dessinée ». C'est gratuit, c'est ouvert à tous, à la fois aux professionnels, mais aussi aux chercheurs, aux étudiants, aux lecteurs, aux lectrices. Tout simplement, vous pouvez vous inscrire. Et puis, le musée de l'illustration jeunesse à Moulins, dans l'Allier, qui est l'un des rares lieux dans le monde et en France entièrement dédié à cet art-là, présente une exposition rétrospective à l'occasion de son 20e anniversaire. 7000 planches originales issues de ses collections sont à découvrir, dont des créations de Laetitia Galli, de Grégoire Solotareff, de Michel Dauphren ou encore Daniel Bourg notamment, qui, comme vous ne le savez peut-être pas, n'est autre que la créatrice de Petit Ours Brun. C'est à voir jusqu'au 5 janvier 2026 et on renvoie bien sûr sur le site de l'émission vers toutes les références de ces deux événements.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
À 7h chaque jour, dans le Book Club, on joue à trouver de la musique dans les livres. Si vous repérez une citation musicale au cours de vos lectures, prenez une petite photo et adressez-la à nous via le compte Instagram de l'émission ou à l'adresse lebookclub@radiofrance.fr. On pioche parmi elles chaque jour pour se quitter en chanson. Il n'y a pas de citation musicale précise dans vos deux livres, Sarah Chevaux et Maxime Kane, mais j'en profite pour dire qu'il y a un très très gros travail sonore qui accompagne votre livre Sarah Chevaux et dans lequel d'ailleurs on a beaucoup pioché pour habiller les lectures et le générique de cette émission. C'est l'une des dimensions passionnantes du livre aussi. On doit la trouvaille du jour à Alix qui nous a envoyé ce passage extrait de La Surprise, une innocence renouvelée, le dernier essai de Valérie Zenati que Marie Richard sut tout récemment à ce même micro. Il a paru chez Autrement. Pour toutes les surprises dont les satellites sont l'émerveillement, l'éblouissement, l'extase, l'enchantement, on sera guetté par la nostalgie ou par l'oubli. On ne saura pas toujours comment prolonger cette joie de vivre. S'il est question d'amour, on sera prêt à donner 10 ans de sa vie pour qu'il dure toujours avec la même intensité. Tu es là, enfin, et moi aussi, tout près de toi, ça ne pourrait jamais s'arrêter. Mais ce sont les années qui suivront, voire les décennies qui confirmeront ou démentiront les effets infinis de cette surprise. On chantera peut-être, avec Vinicio Capossela, « Vai, vai, tanto non è l'amore che va via, il tempo si ». Allez, allez, ce n'est pas l'amour qui s'en va, mais le temps, oui.
Tanto non è l'amore che va via, vai vai, l'amore resta sveglio anche se tardi e piove, ma vai tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino, vai vai. Conosco queste sere senza te, lo solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati, ma vai, tu vai, conosco le mie lettere.
Un très grand merci à tous les deux, Maxime Kane et Sarah Chevaux, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Des Montagniers, c'est le titre de votre première bande dessinée, Maxime Kane. Elle a paru aux éditions Actes Sud et Troupeau, l'hiver, l'été. Ce Leporello, ce livre accordéon que vous faites paraître chez La Partie, Sarah Chevaux, et qu'on peut lire à des tout, tout petits enfants. Demain, on sera en direct du festival Les Utopiales à Nantes, en direct et en public. Si vous êtes dans le coin, venez donc nous voir. On sera ravis de vous y retrouver. On recevra l'auteur Enki Bilal. Aujourd'hui, à la prise de son, c'était Noé Chaban, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et tout particulièrement aujourd'hui à Garance Roubieux qui a aussi assuré les lectures qu'on a entendues dans l'émission. Un grand merci aussi à Alexandra Lai-Begovic qui poursuit la conversation sur le compte Instagram de l'émission.